téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. On est très chers. On est très chers. Allô.
Il est 9h41 et vous écoutez la plus petite émission de France Inter.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Dans le documentaire que vous verrez demain soir sur Canal+, il sera question de Koh-Lanta, d'Assassin's Creed, de Call of Duty, de James Bond, House of Cards et de 24 heures. Il sera question d'un studio, l'un des plus riches, les plus sophistiqués et les plus actifs au monde. Il sera question de vidéos ayant pouvoir de vie ou de mort sur ceux qu'elles mettent en scène. Il sera question d'une génération nourrie d'images made in Hollywood, mettant sa culture et son savoir-faire au service de l'État islamique. Bonjour Alexis Marrant.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur la pièce maîtresse de la propagande selon Daesh, le 13 secret, studio de la terreur. Il est installé à Raqqa. La matrice d'un spectacle à échelle mondialisée a changé de main.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors un mot d'actu pour démarrer cette émission, un mot d'actu qui concerne la nouvelle chaîne info, France Info, descente d'huissier de justice, vendredi après-midi, des panneaux prêts à annoncer la fermeture, au moins temporaire, de la chaîne. En cause, le litige entre les syndicats et la direction sur l'autorisation donnée aux journalistes de monter eux-mêmes leur sujet, menaçant donc directement la spécificité et les postes des monteurs selon les syndicats. Un accord transitoire a été trouvé, l'affaire n'est pas terminée. Des nouvelles d'Hollywood, puisque ça va être au cœur de notre sujet aujourd'hui, Alexis, puisqu'ont eu lieu les Oscars de la télévision américaine, les Emmy Awards. Game of Thrones, dont vous reconnaissez sûrement le générique, entre dans l'histoire, série la plus récompensée outre-Atlantique. À ses côtés, VIP, meilleure série comique, c'est de la satire politique, servie par une remarquable actrice qui joue une vice-présidente des États-Unis totalement incompétente. Elle a été primée parmi les comédiens récompensés. Je vous signale également celui qui interprète le hacker flippé de Mr. Robot, et ça commence ce soir sur France 2. Par ailleurs, le jury des Emmy a adoré cette année une mini-série consacré à l'affaire O.J. Simpson, 20 ans après. Toute l'Amérique y est. On va en parler. Le racisme, les mœurs, la justice, ainsi que des images de télé hystérisées qui, à l'époque, avaient fait le tour du monde entier. Voilà pour l'actu des médias. Alors Alexis Marrant, vous avez travaillé un an et demi sur cette enquête qui sera diffusée demain soir à 21h sur Canal+. Enquête au cœur de la machine de propagande que vous qualifiez de la sans doute de la plus puissante depuis le nazisme et le stalinisme. On va essayer d'abord de mettre les choses en place. Vous avez repéré 6 médias principaux, 6 labels dédiés à des formats et à des contenus spécifiques, Alexis Marrant.
Oui, il y a 6 labels qui ciblent et en tout cas qui font un travail chacun spécifique. C'est très important de comprendre que cette machine, elle est extrêmement structurée, très très bien organisée. Mm-hmm. Il y a 6 labels, il y a aussi 35 bureaux médiatiques locaux dans chaque province que contrôle l'État islamique en Syrie et en Irak, mais aussi dans d'autres territoires.
Territoires où des groupes terroristes ont prêté allégeance,
voilà,
à l'État islamique,
partout,
en Philippines,
des groupes
au Yémen.
Islamiques et djihadistes surtout ont prêté allégeance. Et ça va du Maghreb jusqu'aux Philippines.
C'est ça. Et alors dans ces 6 labels dédiés, il y en a un spécialisé sur la presse en ligne, un autre sur les bulletins radio, un autre sur l'info locale. Et puis, au cœur de votre sujet, il y a 2 labels vidéo qui sont clés.
Oui, alors ils font pas que de la vidéo, mais en tout cas, ce sont ceux qui promeuvent les grands films qui s'adressent à l'Occident, qui s'adressent en tout cas à l'extérieur, et qui sont les films les plus aboutis et les plus organisés, avec des très très gros moyens. Donc ces 2 labels s'appellent Al-Ayat et Al-Furqan. Al-Furqan, c'est le label historique de l'État islamique. Il existait déjà quand l'État islamique n'était qu'un groupuscule en Irak affilié à Al-Qaïda. Et Al-Ayat, c'est celui qui a vraiment été créé suite à l'arrivée de l'État islamique en Syrie, avec le souci surtout d'externaliser cette propagande, de s'adresser au monde entier. Donc c'est aussi ce label qui décline la propagande en 15 langues différentes,
c'est
et ça. Qui cible aussi des messages pour un public occidental qui n'est pas du tout le public ou la cible habituelle des groupes djihadistes.
Voilà, la cible étant à la fois de la propagande idéologique et évidemment des films de recrutement pour faire venir des soldats. Vous le notez également, le mois du Ramadan 2014, 2015, oui, c'est l'année dernière. 1146 contenus diffusés en un mois, ça fait 40 par jour,
oui,
sur tous les supports, vidéo, texte, photo, et évidemment
radio,
film est diffusé sur les réseaux sociaux. Donc c'est réellement
Je pense que c'est un chiffre, il faut c'est un chiffre important, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup et de façon un peu épisodique de certains gros films importants, mais on n'a aucune idée du volume de propagande, et c'est pour ça que cette machine de propagande est vraiment impressionnante, et qu'elle, je pense qu'elle n'a pas vraiment eu d'égal depuis certains régimes totalitaires du XXe siècle. C'est vraiment le volume, 1146 contenus par mois, c'est gigantesque, et ça donne une idée aussi de l'importance que l'État islamique accorde à la propagande.
Alors, parmi vos témoins, Ziyad, un ancien caméraman, il témoigne le visage masqué, bien entendu, il se dit repenti, il faut l'entendre parler d'un film extrêmement important qui s'intitulait « N'en déplaise aux mécréants ».
Qu'est-ce que j'ai adoré cette vidéo. C'est tourné au ralenti, on voit le couteau au ralenti. Quand ils ont exécuté ces gens, je vais pas te mentir, j'aurais aimé être là-bas pour voir comment le tournage se passait. Mais j'y étais pas. Les spectateurs devant ces images, ils vont rester scotchés.
Voilà, Ziyad, ancien caméraman. Il faut le décrire, ce film, Alexis Maran. 20 prisonniers qui vont être égorgés. 20 prisonniers alignés face caméra sur la plage. Vous y voyez exactement des codes visuels de télé-réalité, de Survivor ou de Koh-Lanta, son équivalent français. C'est un film qui a réuni de très gros moyens et beaucoup d'heures de tournage.
Et c'est surtout un tournant dans la propagande de l'État islamique. C'est-à-dire que c'est le premier film vraiment où il y a un storytelling très important qui est fait, une construction, un découpage. On voit que le film a été conçu de longues semaines probablement avant, et aussi on a pu constater, puisqu'il y a certains légistes de l'image, ça s'appelle comme ça, qui ont étudié le film et qui ont étudié les ombres portées sur le sol notamment, et qui ont constaté que le tournage de ce film a duré au moins 8 heures. C'est-à-dire que le supplice, entre guillemets, de ces victimes, de ces 20 soldats qui avaient été capturé lors de la prise d'une base aérienne, a duré au moins 8 heures avant qu'on en arrive à son terme.
Avant qu'on tourne la séquence finale. Amir, un autre de vos témoins, raconte les tout débuts de l'installation, et de l'équipement de ces studios. Il le précise bien, ce sont des jeunes éduqués qu'on a recrutés pour ces cellules audiovisuelles, des Irakiens, deux Français. Ça, c'est assez énigmatique. Deux Français super protégés et en lien direct avec al-Baghdadi, qui est une grande figure de l'État islamique autoproclamé. Vous avez réussi à savoir qui sont ces deux Français ?
Malheureusement, non. Mais ce que le film démontre et qu'on soupçonnait, si vous voulez, mais jusqu'à maintenant, on n'avait jamais eu de témoignage de l'intérieur de la machine de propagande pour le confirmer, c'est qu'il y a de nombreux étrangers. Alors évidemment, beaucoup d'étrangers des pays du Golfe, du Maghreb, mais aussi des Occidentaux, qui sont des professionnels de l'audiovisuel, pas juste des combattants moudjahidines qui arrivent et qui ont une vraie expertise technique qui a permis à cette machine de se perfectionner et
de
se professionnaliser
aussi,
bien sûr,
pour professionnaliser
évidemment
tout ça,
avec les moyens investis.
Ils ont commencé par acheter du matériel en Turquie,
oui.
Matériel qui a passé la frontière, alors absolument, manifestement, sans aucun problème.
Absolument, comme le passaient aussi les armes à l'époque et les combattants qui devaient rejoindre l'État islamique.
100 000 $ par mois au début de cette aventure. 2,5 millions de dollars, c'est aujourd'hui ce qui finance manifestement le studio de Raqqa, qui est le cœur de votre film. Le studio de Raqqa, c'est donc un lieu extrêmement secret. Vous, on vous le raconte, et c'est la première fois qu'on le raconte comme ça. Il faut que vous nous racontiez ce que Ziyad vous fait découvrir comme réalité. Il vous dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils sont en avance.
Eh ben, donc 2,5 millions de dollars, d'abord, c'est par an, pour le coup, c'est pas par mois. c'est important de le préciser quand même, parce que ça c'est un chiffre énorme de toute façon, compte tenu du fait que ces soldats du djihad médiatique ne sont pas payés, ou en tout cas ils sont payés $200 par mois comme les combattants. Donc le budget humain n'existe quasiment pas. Donc 2,5 millions juste pour acheter du matériel et entretenir l'appareil médiatique, ouais. Et juste à Raqqa, c'est très très conséquent quand même. Et ensuite, en ce qui concerne la description que Ziad m'en a faite, c'est vrai que c'était très frappant de voir à quel point il était lui-même impressionné et ne cessait d'être impressionné quand il évoquait ses souvenirs là-bas. Il m'a fait même un plan de ce bureau médiatique que je n'ai pas mis dans le film.
Alors, il dit studio de tournage, studio de radio, studio de production, oui. 120 caméras.
120 caméras, absolument. Et donc, ça, de tout type. Et donc, ça donne une idée vraiment de bon, déjà, ça confirme, si vous voulez, que le cœur de la machine médiatique se trouve bien à Raqqa, parce que vous imaginez bien que tous les bureaux provinciaux de l'État islamique n'ont pas 120 caméras et tout cet équipement. Mais surtout, ça donne une idée vraiment de, voilà, encore une fois, des moyens investis, de la conscience dans le projet de l'État islamique de l'importance du djihad médiatique.
Et Ziad va plus loin, c'est-à-dire que lui, il dit c'est le studio de la mort.
Oui.
C'est-à-dire, une image peut décider de la mort d'une personne. On exécute pour la puissance et l'impact d'une séquence qu'on va filmer. Alors, je vous propose d'écouter un autre témoignage. Il raconte ce qui s'est passé pendant le tournage d'une autre vidéo choc qui s'appelait « Soigner le cœur des croyants » ou « Comment faire faire l'acteur à un homme qu'on s'apprête à sauvagement assassiner ».
L'équipe de tournage a montré à Al-Qassasbeh comment il devait avancer, où il devait se placer et quel geste il devait faire. Le pilote, lui, ne savait pas qu'il allait être brûlé. Il ne l'a su que quand ils l'ont aspergé d'essence et qu'ils l'ont enfermé dans la cage.
Évidemment, cette image fera le tour du monde, ce pilote jordanien brûlé vif. Il faut raconter un petit peu ce film, Alexis Maran, parce que quand on en connaît le dessous, il est d'autant plus glaçant. C'est-à-dire qu'on a pris ce pilote jordanien, on lui a fait traverser les ruines de Raqqa, on lui a donné des indications d'acteur.
Absolument, ouais, oui. Comme d'ailleurs, il y a quelque chose de frappant dans tous ces films dans lesquels des exécutions sont mises en scène, c'est la docilité aussi des personnes. Et ça, j'ai pas toutes les réponses sur la façon dont ça se passe, mais ce qui est sûr, c'est que ça montre bien le niveau de préparation de ces films, le niveau de conception qui est fait. Il y a quasiment un script ou un scénario qui est mis en place avant qu'on attaque la phase de tournage. Et on raconte aussi d'ailleurs par rapport à cette vidéo qu'ils ont d'abord fait les plans de coupe sur les militaires des forces spéciales, les hommes en uniforme à qui on a donné des uniformes neufs, des cagoules neuves, pour qu'il soit encore plus impressionnant. Et les plans de coupe ont été faits avant qu'on procède vraiment à la mise en scène avec le pilote.
Tout assaisonné d'un graphisme 3D extrêmement sophistiqué.
Oui, alors
échalé.
C'est ça aussi, c'est qu'il faut comprendre que dans ces films de l'État islamique, il n'y a jamais qu'une exécution. Il y a toujours un long préambule et parfois même un prologue ou une conclusion. Il y a une grande construction qui est faite. Le moment de l'exécution, c'est un peu le moment paroxystique du film, mais avant ça, il y a toujours un discours, un message qui est délivré, il y a toujours une confession de la victime ou des victimes, et après, en général, il y a toujours aussi un message de menace qui s'adresse, qui menace ceux qui seraient tentés de faire la même chose. Qui leur arrive.
Alors, il y a ces mises en scène d'exécution, mais il y a une autre, on va dire, il y a un autre registre guerrier qui est extrêmement important dans ce flux de vidéos que vous avez analysé, sur lequel vous avez enquêté. C'est finalement toutes ces vidéos qui sont tournées au front et au plus près des combattants. Là aussi, autre témoignage, on vous raconte comment s'est passé le tournage d'une vidéo qui a beaucoup compté, qui s'appelait Les Flammes de la Guerre.
Je filmais, je tournais les combats quand les soldats du régime ont pris la fuite, comment on les a encerclés et comment on les a fait prisonniers. Il y avait plus de 5 caméramans sur le terrain. Ils étaient répartis dans les groupes de combattants et ils avançaient comme ça, avec les troupes. Bien évidemment, en dehors des caméramans professionnels, il y avait une trentaine de combattants qui portaient des caméras GoPro sur la tête. Certains mettaient aussi leurs caméras sur leurs armes.
Et là, Alexis Maran, vous le faites hein, dans ce film qui sera diffusé demain soir sur Canal+, le studio de la terreur, le parallèle entre ces images tournées par les GoPro et puis ces jeux vidéo que les gamins connaissent par cœur, à savoir Call of Duty. Ce qui est très important, c'est que vous le dites. Hein, ensuite, après le tournage, on ramasse les cartes mémoire et ensuite, on les rassemble au studio et on les diffuse comme il se doit pour qu'elles aient un maximum d'impact.
C'est vraiment la machine de production, l'outil qui se met en marche. On ramasse toutes les cartes mémoire. Elles sont triées. Il y a un dérochage qui est fait. C'est une sélection des meilleures images qui est fait par des petites mains. Et ensuite, une fois ces meilleures images sélectionnées, elles sont données à des réalisateurs qui en font le film le plus percutant possible. Mais cet aspect-là de la propagande, on va dire que c'est un peu le plus classique finalement de la propagande du djihad médiatique, puisque les films de combat, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup vu en fait depuis la guerre d'Afghanistan, qu'on a vu en Bosnie, qu'on a vu ensuite en Tchétchénie, qu'on a vu aussi en Irak et qu'on voit maintenant en Syrie. Donc c'est la partie classique. La seule différence, on va dire, la seule nouveauté qu'a apporté vraiment l'État islamique là-dedans, c'est la mise en œuvre, c'est la multiplicité des caméras, des points de vue.
C'est l'esthétique et
l'esthétisation aussi effectivement des combats, mais sur le fond, la rhétorique reste la même. C'est l'héroïsation du Mujahideen afin de, bah, évidemment, d'en attirer de nouveau. Hein.
Alors justement, sur cette esthétique, il y a un pan de votre film qui est totalement passionnant. Bah, vous êtes parti au cœur de la matrice d'origine, c'est-à-dire au cœur d'Hollywood, où là règne un grand tabou. Dites-vous, et on veut bien vous croire, à savoir que les Arabes et les musulmans sont sans doute la communauté la plus dénigrée de toute l'histoire du cinéma américain. Là, vous allez peut-être reconnaître Aladdin.
La caravane passe quand aboie les chiens. On vous coupe les oreilles si votre air ne revient pas. C'est barbare, mais on sent chez soi.
Ah oui, c'est barbare, mais on se sent chez soi. Ça, c'est ce que vous appelez le kit Alibaba.
Oui.
C'est-à-dire qu'il
c'est
fait des ravages.
C'est pas moi qui l'appelle comme ça, d'ailleurs.
C'est
Jack
Shaheen,
cet universitaire qui a énormément travaillé sur le sujet et qui donne vraiment une vision passionnante et frappante de cette stigmatisation, en fait, des Arabes et des musulmans au cinéma hollywoodien.
Qui sont
depuis
méchants.
Le muet, depuis l'époque du muet.
Hein, c'est ça
remonte aux années 20 et il fait une démonstration transversale jusqu'à nos jours.
Dans les années 80, hein, des séquences analysées dans James Bond, dans Retour vers le futur, et alors post 11 septembre, là ça devient d'une islamophobie crasse. Ce qui est très important, c'est que vous faites en fait en creux le portrait d'un homme majeur dans cette organisation qui s'appelle Abu Abderrahman Al-Maliki.
Al-Maliki.
Alors, il faut raconter
l'américain,
qui,
donc voilà, ça veut dire.
Qui est l'américain?
Ah bah c'est l'une des révélations importantes du film, c'est-à-dire que effectivement on savait, comme je l'ai dit précédemment, qu'il y avait des étrangers, des occidentaux dans la machine de propagande de l'État islamique, mais on pensait pas, si vous voulez, que l'effet boomerang, l'effet miroir avec notre propre culture populaire irait aussi loin.
Alors lui, il est blanc, il a la nationalité
américaine, blanc,
il a travaillé à Hollywood,
on sait pas exactement dans quoi. Mais en tout cas, il a travaillé sur des films, y compris des films qui se moquaient de Ben Laden, qui se moquaient de l'islam.
Maintenant, il renverse la vapeur.
Il s'est converti et il renverse la vapeur. D'après Ziad, notre témoin principal, ce serait le réalisateur en chef, en gros, de ces vidéos de la terreur.
Du studio de Raqqa. Il y a une foule de choses qu'on n'a pas eu le temps de raconter ici. Je vous conseille vivement de regarder ce film. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alexis Maran, bonjour. Allez, réveillez.
Bonjour, Sonia De Villers. Alors, dans Grand Bien Vous Fasse, dans quelques minutes, comment se sortir d'un burn-out, ce syndrome d'épuisement professionnel qui touche de plus en plus de Français? Vous pouvez témoigner au 01 45 24 7000.
Et ce sera juste après les infos.